France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. En marge des torrents boueux de l'affaire Epstein, où il apparaît par ailleurs, Elon Musk, le même jour, mardi dernier, était nommément visé par la justice française dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Et lui, le plus riche et le plus visionnaire des géants de la tech américaine, annonçait la fusion de deux de ces sociétés pour accélérer dans l'espace ces entreprises d'intelligence artificielle. D'un côté, une perquisition des locaux français de X Twitter et des poursuites engagées par le parquet de Paris pour infractions diverses dans le fonctionnement de la plateforme et de l'assistant conversationnel Grok, soupçonné de favoriser en particulier la pédopornographie et la célébration d'Adolf Hitler. Et de l'autre, l'opération financière la plus énorme jamais enregistrée, quelque 1250 milliards de dollars, valeur estimée de la nouvelle société SpaceX. D'un côté, la règle de droit française et européenne pour protéger notre système de valeurs. De l'autre, l'ambition d'un apprenti démiurge pour installer des centres de données en orbite, échapper à toute réglementation terrestre et coloniser la planète Mars. Au cœur de cet immense écart, on retrouve évidemment deux conceptions divergentes de la liberté d'expression et les prémices d'un nouvel affrontement entre l'administration Trump et l'Union européenne. Nous ne sommes pas seuls, le Royaume-Uni a diligenté de son côté une enquête judiciaire sur les dérèglements de X Twitter et de Grok. En dépit de la relation spéciale qu'il s'évertue à entretenir avec Washington, les Britanniques sont tout autant visés par les ambitions idéologiques communes aux militants MAGA et aux barons de la tech qui méprisent la démocratie. Il ne s'agit plus seulement de moyens d'information et de désinformation, ce sont bien nos opinions publiques, nos systèmes politiques qui sont atteints. Elon Musk est convoqué à Paris en audition libre en avril prochain, une démarche constructive, insiste la procureure de Paris. L'Américain, lui, dénonce, je cite, « des objectifs politiques illégitimes », aussitôt soutenu dans ce sens par le russe Pavel Durov, le patron de Telegram, qui avait été arrêté à Paris en 2024 pour des raisons similaires. Au moment où plusieurs dirigeants européens insistent sur l'urgence d'assouplir les outils de régulation numérique pour encourager l'innovation, jamais le décalage n'est apparu aussi évident entre notre dépendance aux outils américains et notre ambition de les contraindre. Différence de rythme, différence d'échelle, comment comprendre la formidable accélération qu'Elon Musk impose à ses entreprises? Quelles sont ses obsessions? Peut-il continuer à coloniser l'espace, à le privatiser pratiquement, comme il y parvient déjà avec Starlink? À l'instar de ses concurrents, Bezos et Altman, ses objectifs exigent de plus en plus de moyens financiers et énergétiques. Musk peut-il faire coup double en bourse et dans l'espace et continuer à dominer impunément nos systèmes de communication? Et c'est ce qu'on va comprendre ce matin grâce à vous, Joël Toledano, professeur émérite d'économie, associé à la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine. Nathalie Sonnac, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Xavier Pascaud, vous dirigez la Fondation pour la Recherche Stratégique, et David Chavalaria, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHESS, directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Nathalie Sonnac, l'ironie évidemment, c'est que la décision du parquet de Paris a été annoncée sur X Twitter. Mardi dernier, bon, il faut bien sourire un peu un samedi matin. Quelles sont les charges précises sur lesquelles la justice française peut argumenter en fonction des outils dont on dispose?
Alors en fait, il y a effectivement deux catégories d'attaques, deux champs d'application. On y reviendra certainement au niveau européen. Là, ça se passe clairement au niveau français où le gouvernement a saisi la justice française, le parquet de Paris, une perquisition de lutte contre de la cybercriminalité, donc des images pédopornographiques qui ont circulé, ou pornographiques tout court, ou des remakes de deepfake de gens qui se sont retrouvés tout nus à l'antenne, si vous me permettez l'expression. Et donc on a des investigations qui portent, comme vous le disiez, sur des infractions au pénal, avec une... elles sont nombreuses, j'ai comptabilisé à peu près sept chefs d'inculpation qui vont de la complexité de la détention d'images de mineurs qui présentent un caractère pédopornographique, à la diffusion en bande organisée, à de l'attente, à la représentation de la personne, à la contestation de crimes contre l'humanité, ou encore l'adresse d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée. On voit bien qu'en fait tous ces chefs d'implication dénoncent en fait le fonctionnement de GROK, l'agent d'intelligence artificielle, pardon, de X, et qu'on conduit donc à des contenus. On le trouve à la fois en différents types de contenus, comme je viens de le souligner, le mentionner. Néanmoins, on y trouve à la fois des contenus qui sont des deepfakes à caractère sexuel, mais en même temps des contenus qui sont négationnistes. Tout ça est un lot assez inquiétant de ce qui se passe. C'est une accélération dans le temps, et néanmoins, je pense que c'est une façon aussi de voir la façon dont les États vont s'emparer finalement aujourd'hui des plateformes. C'est pas anodin que ça vient à ce moment-là, et c'est très intéressant de voir aussi que derrière, au niveau européen, on a enfin cette application du Digital Service Act, le règlement des réseaux numériques qui a été voté en 2022-2023, mais qui entre enfin en application. Et on voit que déjà X était depuis plusieurs mois sous la houlette et s'était déjà fait attraper au niveau européen avec une sanction équivalent à 200 ou 300 millions d'euros. Mais là, on est sur le territoire national, on attaque, on contre-attaque, et comme vous le disiez dans votre liminaire, on a également le Royaume-Uni qui contre-attaque. Donc on voit que l'Europe est véritablement en train de se réveiller, qui vise de façon plus générale à finalement protéger prioritairement les mineurs.
Alors, un exemple chaud bouillant, c'est évidemment cette vidéo ouvertement raciste que le président des États-Unis a posté, évidemment, il dit, c'est pas moi, a posté sur son réseau à lui, qui s'appelle Truth Social. Il a fallu quand même 12 heures pour que la Maison-Blanche retire cette vidéo, où l'on voit, comment dire cela poliment, on voit Michelle et Barack Obama, enfin leur visage, leur tête sur des corps de chimpanzés. Oui. Et en fait, toute la vidéo parodique avec les animaux de la jungle, ce sont tous les démocrates qui auraient forcément, c'est toujours l'obsession de Trump, triché pour lui faire perdre les élections en 2020. Évidemment, Trump a dit « Oh, j'ai juste regardé le début, j'ai pas vu la fin. » Enfin, bref. David Chavalarian, encore une fois, on retrouve Elon Musk, dont on sait la proximité avec le président des États-Unis. Mais dans tout ce qu'a décrit Nathalie, il y a bien cette idée de la liberté d'expression qui, en Europe, est encadrée par un système législatif, un système juridique précis, et surtout en France, d'ailleurs. Évidemment, ce n'est pas le cas aux États-Unis, et certes, ce n'est certainement pas la conception qu'Elon Musk lui-même a de la liberté d'expression.
Alors oui, c'est vrai que le concept de liberté d'expression est un peu différent en France, en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a cette idée que on peut dire, même on peut déclarer défendre le nazisme tant qu'on ne porte pas qu'on comporte pas un danger imminent pour une personne. Donc il y a une liberté d'expression qui est un petit peu plus étendue. Ceci dit, il y a quand même des limites que transgresse aussi Elon Musk. Et quand il parle de liberté d'expression, donc déjà avant de racheter X Twitter, il disait Twitter est une place publique. Et donc, il faut qu'il y ait la liberté d'expression comme partout. Et comme il y a de la modération, ça va contre la liberté d'expression. Donc, je vais racheter Twitter pour défendre la liberté d'expression.
Et il a d'ailleurs rétabli le compte de Donald Trump lui-même qui avait été suspendu.
Tout à fait. Donc le narratif principal d'Elon Musk, c'est de dire « je vais rétablir la liberté d'expression sur ce réseau-là ». Et effectivement, il a rétabli Elon Musk, mais il a rétabli d'autres comptes qui avaient été bannis pour nazisme, pour harcèlement sexuel, pour homophobie. Enfin bon. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est que tout cela, c'était vraiment à la fois une hypocrisie, une sorte de marketing, parce que ce qu'a fait effectivement Elon Musk quand il est arrivé, effectivement, il a rétabli Donald Trump et d'autres comptes nuisibles, mais par ailleurs, il a fermé des comptes qui le critiquaient. Il a aussi, au moment où les utilisateurs commençaient à partir vers un réseau social alternatif qui s'appelle Mastodon, banni la mention Mastodon. On ne pouvait plus mentionner le mot-clé Mastodon dans un tweet parce qu'il ne voulait pas que les utilisateurs partent sur un autre réseau. Donc en fait, sa liberté d'expression, c'est plutôt une liberté d'oppression. Et sa vision libertarienne, c'est de la société et de la vie, c'est plutôt de dire « tant que je peux le faire, personne ne doit pouvoir m'en empêcher de le faire ». Et donc c'est vraiment ça. Donc en fait, il privatise l'espace public. Et il applique le droit de l'entreprise qui dit que si vous êtes dans un espace privé, eh bien, c'est le propriétaire de cet espace qui doit définir les lois. Et c'est son objectif. Donc, c'est une liberté d'expression de son expression, en fait, d'une certaine
manière.
Alors,
il a offert $1 million. C'est un garçon déjà généreux, hein, on l'a vu pendant la campagne électorale et on va le voir encore vraisemblablement lors des élections de mi-mandat. Il a offert $1 million pour le meilleur article publié sur X Twitter. Et ce meilleur article a été publié par un compte anonyme suprémaciste blanc glorifiant Hitler.
Oui, mais en fait, il faut bien voir que Elon Musk, là, donc, il dit avoir racheté Twitter pour la liberté d'expression, mais il a racheté Twitter parce que c'est un média de contrôle de l'opinion et de fabrication de l'opinion. Et il veut en gros faire Twitter à son image. Il pousse à la fois les algorithmes et aussi, par exemple, son IA, dont on a déjà parlé, vraiment vers un courant idéologique d'extrême droite. Hein, quand Grok s'est mis à faire du révisionnisme, c'est parce qu'ils avaient explicitement changé ce qu'on appelle le pré-prompt de Grok, c'est en gros les instructions en amont de l'interaction utilisateur qui disaient à Grok, soit politiquement incorrect. Et dans ce langage-là, ça veut dire, en gros, défend les certaines idéologies, notamment le suprémacisme blanc. Donc, Elon Musk s'est emparé de ce moyen de communication pour faire avancer ses croyances qui sont suprémacistes blancs.
Et combattre, en l'occurrence, le woke, parce que...
Quand il se lance dans une croisade anti-woke, il faut voir qu'est-ce qu'il dit derrière, comment il définit l'anti-woke.
Oui.
Lui-même, il poste, c'est pour ça que c'est important de se rattacher à ce qu'il dit et ce qu'il poste. Quand il définit le wokisme, en gros, les woke, pour eux, c'est ceux qui sont anti-racistes, anti-homophobie, anti-grossophobie, pour l'inclusion, c'est ça les woke. Donc en fait, lui, il est contre tout ce qui irait à l'encontre d'une liberté absolue et qui, en gros, prendrait soin des plus faibles, ferait du collectif, parce que lui, il est profondément individualiste et, en tant qu'homme le plus riche du monde, il dit « je dois pouvoir tout acheter et tout faire ». Donc, c'est ça. Donc, toutes les réglementations qui limiteraient son pouvoir sont woke pour lui. Voilà, c'est ça, c'est en gros.
Donc, nous sommes tous woke, Joël Donnet-Dano. Évidemment, on a donc ces outils dont Nathalie Sonnac nous a détaillé tout à l'heure la nature, mais on a toujours l'impression, évidemment, que la réglementation européenne met du temps, c'est le moins qu'on puisse dire, à se mettre en place. Hier, TikTok, donc qui reste chinoise, en tout cas quant au logiciel, si j'ai bien compris, même si aux États-Unis, il y a maintenant une société qui, comme par hasard, appartient pour les deux tiers à Ellison, qui est un grand ami aussi de Donald Trump. Bref, TikTok est épinglé pour son interface addictive. Comment est-ce qu'on peut espérer que nos outils européens, français, arrivent à contenir cette extraordinaire accélération?
Alors, effectivement, en rentrant dans la logique que ça s'est bien accéléré, parce que vous faites référence à TikTok hier, il faut quand même savoir que la première observation sur le même sujet par la Commission européenne était 15 mois avant. Et que donc... La précision sur ce qui était reproché à TikTok et sur ce qui posait des problèmes par rapport au risque posé a mis 15 mois. Donc, si on compare avec la rapidité avec laquelle le wokisme sous toutes ses formes a été décrit et l'anti-wokisme a été attaqué, on voit bien qu'il y a un problème de vitesse. Donc on se retrouve si on va rapidement au problème, on a défini une régulation qui porte des valeurs qui sont les nôtres, mais peut-être avec les outils du XXe siècle. Et avec des idées selon lesquelles, au fond, j'ai entendu une commissaire européenne dire on va apprendre la conformité au big tech. Je pense qu'on ne va pas apprendre la conformité.
Non, c'est mignon, mais...
C'est mignon, voilà, comme vous dites. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en mettant tellement de temps... Si en même temps qu'on avait dit à TikTok il y a 15 mois... Ok, attention, il y a un problème. Mais à partir de maintenant, tout ce que nous pourrons vous reprocher de précis, vous en êtes responsable. Un peu comme, au fond, ce qui se passe en France, ce qu'a décrit Nathalie tout à l'heure. C'est qu'on responsabilise l'entreprise. On sort de ce mythe de l'irresponsabilité qui est encore présente dans le DSA et qui nous vient un peu des Amériques aussi au début du siècle. On changera de monde. Donc, il y a le problème de la responsabilité.
Alors, on l'a vu, pardon, je vous interromps, avec l'arrestation, donc, en 2024. C'est la vice-procureure de Paris, Johanna Brousse, qui était à la manœuvre, avec Pavel Durov, qui s'est installé au Crillon, donc il n'était pas trop malheureux. Après, maintenant, il est à nouveau à Dubaï. Il s'est évidemment rué au secours de son ami Elon. Oui. Pour accabler, évidemment, les Français.
Mais entre-temps, il a été dit, je ne sais pas si ça continue, que Telegram était un petit peu plus proactif par rapport aux réquisitions de la police et des problèmes français. Et je pense que tant qu'on n'expliquera pas, qu'on ne reconnaîtra pas au fond qu'à travers leurs algorithmes, ces acteurs sont responsables de ce qui se passe, on continuera à être dans un monde de bisounours et à croire qu'on va anticiper les risques. La deuxième dimension, et je m'arrête là, c'est que tant qu'on continuera à considérer que d'un côté il y a les contenus et de l'autre côté il y a le modèle économique, alors que, pas probablement pas pour Elon Musk, mais pour tous les autres, ce qui préempte la possibilité de faire évoluer ces réseaux, c'est le fait que plus ils se comportent mal et plus ils gagnent d'argent. Reuters a sorti deux articles dans les dernières semaines montrant comment Meta savait qu'il y avait des publicités trompeuses, des publicités qui auraient dû être interdites, mais que ça représentait 15 à 20% de son chiffre d'affaires, et que, en tant que tel, ça valait le coup de continuer. Ils provisionnaient juste une petite partie pour les amendes. C'est donc, dans le DSA d'aujourd'hui, comme dans le DMA d'ailleurs, on est un peu dans, comme disent...
Donc DSA, DMA...
C'est les deux textes numériques, l'un sur les contenus et l'autre sur les pratiques anticoncurrentielles, si je résume très très vite. Chacun d'entre eux, on a séparé l'économie et le contenu, alors que évidemment ces acteurs ne le séparent pas, premier point. Et deuxième point, on les pratique avec, si je puis dire, des modalités qui n'ont pas la capacité à obliger les acteurs. On fait de la micro-régulation, voilà.
Oui, juste pour réagir sur ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la tête de ces acteurs, quand vous mettez des amendes, ça veut dire que c'est autorisé du moment où vous en avez les moyens. Et c'est des gens qui en ont les moyens.
Voilà, oui, c'est le cost of doing business.
Donc ils provisionnent. Ils provisionnent.
Oui, Nathalie Sonal. Un élément, c'est vrai que je rejoins Joël Tedelano sur ce point, sur le fait que d'un côté, on a les contenus, et puis de l'autre côté, on aurait le modèle économique. Mais c'est quelque chose qui est très européen, finalement. Si vous regardez en France la notion d'exception culturelle, de liberté d'expression, on a toujours séparé finalement le fonctionnement intrinsèque d'une entreprise de médias qui est aujourd'hui X et qui atteint en fait sur l'espace public, qui interfère avec l'espace public, et le modèle économique, le fait de gagner de l'argent. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à réunir, mais il me semble quand même, je serais plus positive sur ce point-là, que avec le DSA qui quand même oblige à cette responsabilité des plateformes, avec l'obligation de mettre en place des moyens à la fois techniques et humains, ça paraît petit bras, Mais pour le coup, si on regarde ce qui se passe à la fois en France, évidemment, sur la protection des mineurs, j'y reviens parce que je pense que c'est un point qui est finalement comme un cheval de Troie. La protection des mineurs, la protection des enfants, l'atteinte finalement à leur sensibilité, à ce qu'il se passe dans de troubles alimentaires, de troubles de sommeil, voire de santé publique et mentale, eh bien finalement ça, c'est quelque chose qui est universel. Et là, on va pouvoir rentrer dans le dur parce que la France le fait, l'Europe le fait, je pense évidemment au Royaume-Uni, mais il n'y a pas que au Royaume-Uni, de nombreux pays européens ont appliqué cette règle et réfléchissent également à interdire ces réseaux sociaux. C'est vrai en Australie, c'est vrai en Nouvelle-Zélande. Et je suis allée, parce que Christine, pour la préparation de cette émission, elle m'a beaucoup intéressée, je suis allée voir ce qui se passait aux États-Unis. Et il ne faut pas croire non plus qu'aux États-Unis, finalement, ça soit si open bar sur la sécurité des enfants. Il y a en ligne ce qu'ils appellent le Kids Online Safety Act, le COSA. Et ce COSA, qui est un décret d'application de 2025, mais pour une loi qui a été votée l'année précédente, et qui vise justement à protéger les mineurs en ligne, avec véritablement une obligation de mettre en place des objectifs qui visent à désactiver, par exemple, de l'algorithme, des fonctionnements, des fonctionnalités qui créent finalement le phénomène d'addiction, pour le dire un peu plus clairement. Donc l'autoplay, le scrolling seront complètement interdits, en tout cas, avec d'obligations également du contrôle parental. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même une très forte avancée, et on a le pendant de ce COSA, qui s'appelle l'OSA au Royaume-Uni, qui est Online Safety Kids, qui lui aussi applique et vise à protéger les mineurs. Donc il me semble que le cheval de Troie, pardon de le dire ainsi, mais la santé des enfants, de façon globale, eh bien, conduit finalement à obliger à avoir plus de transparence, à réfréner l'algo et ouvrir le capot.
On a affaire quand même à une administration américaine, et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump est soutenu et financé par les barons de la tech, qui déréglemente à tout va, et qui nous punit, puisque en décembre dernier, on sait que Thierry Breton, ancien commissaire européen, a été nommément sanctionné, aussi deux Britanniques et deux Allemandes qui animent des ONG sur la transparence et la liberté d'expression. Xavier Pascaud, ce que l'on comprend, en fait, c'est que pour Elon Musk en particulier, mais en fait pour toutes ces entreprises de la tech, qui sont sous juridiction américaine, même quand elles travaillent ailleurs, l'idée c'est d'échapper justement à toute réglementation, et c'est singulièrement le cas de Musk qui est devenu d'une certaine manière le roi de l'espace.
Oui, je crois que tout ce qui a été mentionné est évident. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il fait de l'argent aussi. Il y a du business derrière tout ça, au bout du compte. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec SpaceX, hein, qui est valorisé à 800 milliards de dollars, enfin, là, on atteint des niveaux stratosphériques, si j'ose dire.
Oui, mais la nouvelle SpaceX, c'est donc
alors, la nouvelle l'ancienne, SpaceX, voilà, plus qui est en train de fusionner avec XAI, donc le fer de lance de l'intelligence artificielle chez Musk. L'idée, là, c'est vraiment de faire coup double. Et là, c'est du business. Alors, je vais m'expliquer rapidement, faire coup double. C'est-à-dire profiter de l'avance de SpaceX dans l'espace. Bon, aujourd'hui, très rapidement, on ne va pas rentrer dans ces détails techniques, mais on a 14 000 satellites qui fonctionnent en orbite. On n'en a jamais eu autant. Sur ces 14 000 satellites, près de 10 000 appartiennent à Musk. Donc ça, l'espace qui était très régalien, c'est en train de voir une évolution dans les acteurs qui est assez singulière. Mais au-delà de ça, on a finalement une entreprise SpaceX qui est en train de faire en sorte de s'appuyer sur cette avance pour, dans le domaine de l'intelligence artificielle, faire pièce à ses concurrents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les concurrents de Musk dans ce domaine-là, ça peut être Altman d'OpenAI, ça peut être Anthropic, ça peut être Jeff Bezos aussi. Ces gens-là, ils ont aussi envie de mettre des data centers dans l'espace. Alors, on reviendra sur un peu la folie que ça représente de faire ça. Mais on a un récit qui est en train de se construire. Et ce récit, il est en train de se construire chez Musk et chez les autres, d'une certaine manière. Alors, chez Musk, pour faire pièce, pour les tuer, en réalité, et pour vraiment avoir, en tout cas, un récit qui annonce une victoire totale. Et de l'autre côté, ça prépare une entrée en bourse, parce que toutes ces entreprises préparent une entrée en bourse pour la fin de l'année. Mmh. Et là, on a effectivement une bataille stratégique très forte entre OpenAI, Anthropic, d'autres. Anthropic est soutenu par Amazon, il faut se rappeler de ça, et Jeff Bezos lui-même, qui est à la fois un acteur spatial et un acteur de la technologie de l'information et de l'intelligence artificielle.
Et qui vient de casser en gros le Washington Post.
Et qui vient de casser le Washington Post au passage. Ce sont des acteurs qui aujourd'hui sont dans une bataille féroce. Et Musk considère que SpaceX, là, dans cette bataille sur l'IA, SpaceX est un atout par le fait même qu'elle a un avant. Et donc il crée un récit sur la faculté qu'il aurait de mettre en fait l'IA dans l'espace, si j'ose dire, avec ses data centers. Et là, on parle d'infrastructures d'un million de satellites, hein, qui vont se connecter entre eux par des liens optiques qui permettent des taux, des débits, des volumes, des latences extrêmement faibles. Enfin voilà, on met en place quelque chose qui est un récit destiné à convaincre les investisseurs qui suivent le bon chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que Bezos, en ce moment, qui suit un petit peu ça, lui a pris un chemin un peu différent et veut mettre dans l'espace, on y reviendra, une constellation dédiée à la connexion des data centers qui sont sur Terre. Et là, on voit deux voies qui sont en train de se mettre en place.
Et aucun encadrement.
Aucun encadrement. Dans l'espace, en ce moment, on est en train de voir finalement des orbites qui vont être confisquées carrément. On commence à parler de trafic spatial, de possibilité de collision de satellites. Donc, il va falloir un code de la route. Aujourd'hui, on a le plus grand mal à négocier au niveau international des accords qui permettraient de s'accorder sur ce code de la route.
Alors, cette introduction en bourse qui serait la plus énorme jamais enregistrée. Donc, Musk voudrait qu'elle ait lieu en juin, parce qu'en juin, il y aura un rare alignement des planètes, c'est ce qu'a découvert le Financial Times, des planètes Jupiter, Vénus et Mercure. Et là, David Chavalarias, on entre, si j'ose dire, comme vous l'avez fait dans votre livre, dans la tête de Musk. Et alors, j'ai trouvé son explication, la traduction de son explication, donc pour cette fusion gigantesque. J'ouvre les guillemets, hein, il faut s'accrocher. Lancement d'un nouveau livre pour la mission de créer un soleil intelligent, conscient, capable de comprendre l'univers et étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, en fait, c'est pour comprendre où va Musk et pourquoi il fait tout ça, il faut effectivement rentrer dans sa tête et comprendre quelles sont à la fois ses obsessions et ses sources d'inspiration. Elon Musk, c'est quelqu'un qui est resté bloqué dans son enfance avec la lecture de Isaac Asimov et Douglas Adams, donc deux auteurs de science-fiction qui parlent, en gros, d'expansion de l'humanité à travers différentes planètes et qui disent qu'en gros, pour que l'humanité aille jusqu'à la fin des temps, il faut qu'elle puisse coloniser l'espace. Donc, et depuis qu'il a 7 ans, il veut faire des fusées et aller dans l'espace. Il a cette obsession-là à rencontrer un courant philosophique plutôt récent qui s'appelle le long-termisme, qui explique qu'en gros, le but ultime de l'homme dans l'univers, c'est de se propager et d'absorber le maximum d'énergie que va produire l'univers avant l'extinction de l'univers, c'est-à-dire dans des trillions et des trilliards et des trilliards d'années. Hein, mais ça donne un espèce de but. Un but complètement délirant, mais bon. Et donc, le long-termiste dit... le but ultime, c'est de permettre à l'humanité de capter toute cette énergie et de faire le plus de choses avant que tout s'éteigne. Et donc, Elon Musk a connecté ces deux choses-là, et donc il est dans une entreprise où, et le fait que le répéter, hein, il donne une dimension civilisationnelle à son entreprise, il dit on va amener la conscience au fin fond de l'univers, il faut absolument qu'il y ait au moins deux planètes avec une humanité dedans le plus rapidement possible, parce que si jamais une planète s'éteint, eh bien, au moins il y aura l'autre. Et donc il a trouvé un sens à sa vie, dans cette conception-là, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il faut bien voir que quand il parle, par exemple, de liberté d'expression, quand il parle d'humanité, c'est pas du tout le même sens que nous, on attribue. Donc, par exemple, quand il parle d'humanité, dans le long-termisme, l'humanité, c'est l'ensemble des humains qui vivront un jour dans l'univers, dans les prochains trilliards d'années.
Et qui seront tous blancs.
Et qui seront évidemment tous blancs. Alors, oui. Après, il y a une déclinaison sur son racisme, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sa première motivation, c'est ça. Et par exemple, ça l'embête pas d'employer des ingénieurs qui seraient pas blancs si jamais ça permet d'accomplir cette mission. Et juste pour terminer, donc ça veut dire que quand il dit « je vais protéger l'humanité », en fait, lui, il est dans ce courant long-termiste qui fait une espèce de simplification qui dit « la vie d'un homme demain, ça vaut autant que la vie d'un homme d'aujourd'hui et il faut maximiser, en gros, les vies d'hommes sauvés jusqu'à la fin de l'univers ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme demain, il y aura des trilliards et trilliards de personnes, si jamais on arrive à faire cette énorme colonisation de l'univers, l'humanité telle qu'elle existe actuellement, donc sur Terre, ne compte que dans la mesure où elle permet cette conquête. Et donc, s'il faut, par exemple, sacrifier 90% de l'humanité pour arriver à construire Mars demain, pour lui, c'est normal. C'est un objectif moral acceptable. Et donc, il va à la fois dans toutes ses entreprises et mettre toute son énergie pour réaliser cet objectif dire je suis la liberté d'expression, l'humanité, mais il faut comprendre qu'en fait, lui, il veut créer des nouvelles civilisations. Et en gros, s'il doit détruire la moitié de la Terre pour ça, c'est pas un problème. C'est moralement acceptable. Il y a vraiment une dimension morale dans ce qu'il fait. Et il est convaincu qu'il fait le bien. Alors que bon, voilà, tuer la moitié de l'humanité pour coloniser Mars, je pense que pas beaucoup de gens diraient que c'est le bien. Voilà.
Donc ça, mais il a une autre entreprise qui s'appelle Neuralink.
Oui. Alors en fait, si vous voulez, toutes ces entreprises convergent vers l'idée que on va construire une humanité extrasolaire. Donc
et augmenter.
Et augmenter. Mais donc par exemple, il va faire Starlink. Donc Starlink, c'est un réseau de satellites, mais c'est l'Internet sur Terre, mais c'est surtout parce qu'il faut le mettre sur Mars. Il a SpaceX parce qu'il faut aller sur Mars. Il veut envoyer 1 million de tonnes de matériaux avec SpaceX. Il a la Boring Company qui permet de faire des tunnels sur Terre, mais c'est pour faire des tunnels sur Mars, parce que évidemment sur Mars, on ne pourra pas vivre à la surface, il faudra vivre sous Terre. Il a Neuralink pour pouvoir piloter d'autres robots à distance. Il développe la robotique et l'IA pour pouvoir terraformer Mars, c'est-à-dire reconstruire un environnement habitable sur Mars, qui est absolument idiot, quoi. Mais donc, en fait, tout converge vers ça. Et il est dans une logique, il y a une cohérence interne très forte, qui est celle, en fait, de l'univers d'Asimov, des robots, etc., mais qui, en fait, si on regarde, ne tient pas, menace directement l'humanité telle que nous, on la connaît actuellement.
Nathalie Sonnac, cette idée d'implant dans le cerveau, ce sur quoi travaille en particulier Neuralink, et je crois qu'ils ne sont pas les seuls, je crois que les Chinois aussi sont très très en pointe là-dessus, et en Chine il y a encore moins, je crois, de réglementation sur toutes ces expériences. Mais semble-t-il, on a vu, c'est ce qui a été évidemment mis en avant, un tétraplégique capable de bouger une figure d'échec. Mais là, ça veut dire que c'est plus seulement la liberté d'expression qui serait ainsi en cause, c'est la liberté tout court.
Je crois que là, dans ce monde que vient de nous décrire David, auquel je ne comprends plus grand-chose...
Vous ne lisez pas assez de science-fiction, alors.
J'avoue que c'est pas ce que je préfère. Je crains que dans le monde dans lequel on vit, en tout cas aujourd'hui, on a des idées de liberté d'expression, de libre arbitre. L'idée était que nous nous informions pour nous forger une opinion, que nous avions besoin d'un journalisme de qualité, d'une intégrité du processus de production, afin que nous puissions, nous chacun, exercer notre libre arbitre. Ce que l'on observe, et sans aller sur Mars aujourd'hui, c'est que dans le modèle économique de ces plateformes, que l'on décrivait tout à l'heure, ce fait de collecter massivement de la donnée, de mettre des couches algorithmiques et d'intelligence artificielle qui permettent finalement non plus de segmenter, qu'on pouvait segmenter auparavant, mais d'hyper-segmenter, donc de faire de la biométrie, de la psychométrie, c'est-à-dire cette capacité finalement à complètement fragmenter les individus en petites cellules pour avoir une connaissance avancée de chacun d'entre nous, évidemment pour des raisons économiques qu'on connaît bien, qui est celle de plus de publicité et donc plus d'engagement et toujours plus de, et donc in fine plus d'argent. L'individu, me semble-t-il, est en train de se perdre sans qu'il sache qu'il se perde. Il y a déjà plusieurs années, Shoshana Zuboff nous le disait, finalement on est passé dans un âge du capitalisme de surveillance, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on risque, en tout cas avec ce type de modèle, si c'est pas déjà le cas, de perdre de notre libre arbitre dans la mesure où c'est plus nous qui choisissons. Les images nous apparaissent, l'information nous vient, c'est du push en permanence.
Oui, mais nous sommes coupables aussi, parce que évidemment, c'est l'émotion qui prime, ça, c'est une banalité que de le dire, et c'est le visuel qui prime.
Oui, alors c'est vrai que c'est 80% de la
banalité. Et ce n'est pas un hasard si Donald Trump en particulier, utilise beaucoup de majuscules dans ses tweets.
Bien sûr, on
parce
simplifie de plus en plus,
c'est ce qui arrête le regard.
Bien sûr, et d'ailleurs, on embauche de plus en plus, non pas des ingénieurs, mais des cognitivistes ou des sciences de la cognition, pour pouvoir justement en permanence améliorer les interfaces pour qu'elles soient plus ergonomiques, qu'elles soient plus faciles, et finalement qu'on nous balade dans tous les sens du terme, là où ils veulent qu'on aille. Donc on est passé d'une économie de l'attention qui est bien connue à une économie de la manipulation. Donc cette manipulation-là, elle a maintenant été très bien étayée par beaucoup de recherches, par beaucoup de scientifiques. On est beaucoup de chercheurs à travailler là-dessus. Donc une fois qu'on l'a mis en place, une fois fois qu'on la connaît, j'en reviens malheureusement à un cadre dans lequel nous, on est quand même avec un article 11 de 1789, c'est-à-dire qu'on a une liberté, mais qu'une liberté qui doit être encadrée, c'est-à-dire qu'on est pour une liberté d'expression, d'écrire, d'imprimer, de lire, de distribuer, mais dans un espace qui est celui d'un espace encadré. Et là, avec un phénomène comme Elon Musk, on peut l'appeler lui-même un phénomène, il fait exploser finalement cet écosystème, mais il fait surtout exploser, et c'est là où je pense qu'on peut l'arrêter, en tout cas j'espère, hein, ou en tout cas mettre en place les moyens pour l'arrêter, c'est que ça sort de notre système de valeurs. C'est-à-dire qu'on a un système de valeurs en matière de liberté d'expression. Si on regarde le modèle chinois, c'est pas celui qui nous fait le plus kiffer, si vous me permettez l'expression. Mais si on regarde aujourd'hui le modèle américain, lui non plus, finalement, ne correspond plus à ce système de valeurs sur lesquels l'Europe a mis tant de temps, je rejoins Joël évidemment, a mis tant de temps, elle met peut-être trop de temps, mais néanmoins, on s'entend sur un système de valeurs de protection de l'individu et de liberté d'expression.
Oui, mais enfin, on sait désormais qu'on a affaire à une administration américaine qui n'est plus franchement notre alliée et qui met des moyens financiers. Il y a une sous-secrétaire d'État américaine qui fait partie du ministère américain des Affaires étrangères qui vient de faire une tournée en Europe pour offrir des moyens financiers à des centres de recherche, entre guillemets, à des mouvements politiques, disons-le, dits patriotes, c'est-à-dire, disons-le, d'extrême droite, pour faire avancer leurs idées. Donc, Joël Toledano, ses moyens financiers, ce sont ceux maintenant du gouvernement de la première puissance du monde, et ce sont aussi les moyens d'entreprises qui sont de plus en plus concentrées. Et donc de plus en plus puissant.
De plus en plus concentré, de plus en plus riche. Entre le moment où on a effectivement commencé à écrire les textes européens sur le numérique et l'année dernière, tous les chiffres de 2025 ne sont pas sortis, on a quand même eu un doublement des profits, un doublement de la R&D, un doublement... une capacité encore plus forte. Et c'est pour ça que j'avoue être... Je trouve que c'est de l'immense naïveté de continuer à défendre notre style marathon versus le fait qu'eux, ils font des successions de 100 mètres.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?
On s'occupe des modèles économiques.
On prend de la kétamine comme...
Non, on s'occupe des... On arrête de traiter, justement. Je crois que... Nathalie le disait tout à l'heure. Encore que l'exception culturelle dans les médias, je ne suis pas d'accord, elle a été construite en regardant l'offre et la demande. On a eu un circuit de salles pour projeter les films. Ce n'est pas du tout été que le financement.
Mais
on
ça a
vu la globalité.
Ça a accompagné. C'était cohérent.
Mais c'était cohérent. Là... On s'occupe, enfin, je suis désolé, mais on passe notre temps à parler de l'économie de l'attention, et puis une fois qu'on en a parlé, on dit « Ah, c'est pas bien, il y a tel contenu qui va pas, il y a ceci, il y a cela ». Je veux dire, alors que, comme le rappelait Nathalie, s'il y a tel contenu, c'est d'abord beaucoup, indépendamment d'autres problèmes politiques sur lesquels on pourrait revenir, et qui sont le souhait d'une telle puissance d'influer sur nos contenus, mais même si on reste chez nous... C'est provoqué par, effectivement, ces mécanismes économiques. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Il faut arrêter de croire.
Et s'attaquer comment ?
Ben, la publicité, c'est l'angle mort. Oui. L'angle mort de tous nos sujets, c'est qu'on laisse, au fond, la publicité dans une sorte d'obscurité. Les deux articles qu'a sorti Reuters... Il faisait suite, mais il y a quelques années, la même chose qui avait été faite sur Google, etc. La publicité, c'est ça qui les motive. Ces acteurs, oui, indépendamment de Musk, oui. C'est quand même globalement leur propre profit et leur propre développement. Et ils s'en servent ensuite pour, exactement comme vous le décriviez tout à l'heure à propos des satellites, il s'agit de tuer... l'acteur suivant qui serait susceptible d'arriver. Parce que ce qu'on voit sur les satellites et que vous avez décrit, on retrouve la même chose sur l'intelligence artificielle générative avec Microsoft et Google qui mènent cette lutte à mort pour empêcher que les autres puissent les suivre. Donc c'est leur dynamique. Et si on reste dans leur dynamique et qu'on accepte ces modèles économiques, de toute façon, on ne va pas pouvoir continuer. D'un côté, on est dans une situation totalement paradoxale. D'un côté, on se fait vraiment allumer pour des textes dont il faut, et c'est normal, qu'on les modifie substantiellement pour qu'ils deviennent efficaces. Aucune régulation économique ne s'est faite du premier coup. Ce qu'il faut surtout pas, c'est se dire, comme on doit défendre nos valeurs, on doit défendre nos textes comme si les textes n'étaient que la traduction de nos valeurs, et les faire bouger. La première régulation des télécoms, elle a planté. C'est après que ça s'est mis en place. Donc il faut y aller vite et bouger dans nos intérêts et sur l'économie.
Aller vite, Xavier Pascaud, c'est précisément ce que fait évidemment Elon Musk et ses copains, ils sont plus vraiment copains d'ailleurs, ses concurrents, et avec des besoins d'énergie qui sont absolument gigantesques.
Alors oui, ça, c'est tout à fait vrai. Je voulais revenir, et je reviendrai à cette question particulière, mais je voulais revenir sur la vision d'ensemble. On peut avoir, en écoutant tout ça, en voyant Musk s'affirmer, le sentiment, à mon avis, faux, qu'on assiste à une privatisation des choses. En réalité, ce qui se reconfigure, c'est la manière de gouverner tout ça aussi. Aux États-Unis, entre l'État et ce secteur privé, il y a une reconfiguration des relations qui s'est passée, en réalité. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce système, cette infrastructure à la fois spatiale, IA, etc., elle sert aussi des intérêts gouvernementaux. Si vous prenez le projet Golden Dome, alors dont on peut dire cette une nouvelle version de l'IDS un peu fantaisiste, et sans doute, effectivement, techniquement, etc. Mais en revanche, c'est un énorme push, à nouveau, comme il y a 40 ans, pour alimenter massivement aux États-Unis de la R&D qui aura des conséquences, des effets de bord stratégiques.
Et dans les industries de défense.
Et dans les industries
surtout.
De défense. Et Musk, pour le coup, en promettant des millions de satellites en orbite. En fait, il prépare aussi cette infrastructure, il dialogue avec le gouvernement. Et pour tout dire, aujourd'hui, Musk, il est dans un système où on a trois piliers principaux. Et il y a le spatial qu'on connaît, mais le spatial tout seul, ça n'existe pas. Et il y a aussi un autre aspect qui valorise ce spatial parce qu'il tire une forme de rentabilité de l'utilisation de ce spatial, c'est la tech, c'est tout ce qu'on a dit, c'est tout ce mouvement autour de l'IA, etc. Mais ça, ça ne suffit pas. Il faut un troisième acteur qui amorce cette pompe. De relations entre le spatial et la tech. Et ça, c'est un gouvernement qui, en gros, l'échelle de grandeur, c'est 10 milliards sur 10 ans. Par le biais de programmes publics, on injecte 10 milliards sur 10 ans pour faire, par exemple, un cloud de défense qui va utiliser ses acteurs commerciaux dans une relation nouvelle, etc. Donc, c'est un ensemble qui, d'ailleurs, ne date pas d'hier.
Oui, mais qui ça domine quoi? Parce qu'on a l'impression que...
Alors, dans le spatial, c'est très clair. L'essentiel de l'argent qui circule, c'est de l'argent public. À 80%, c'est de l'argent public. La manne que reçoit Musk, alors parle bien, on dit souvent ce sont des subventions. Ça, c'est techniquement pas tout à fait vrai. Ce sont des contrats qu'il arrive à gagner, mais parce qu'il est seul. Et en fait, ce sont des contrats qui se chiffrent en milliards.
Et c'est son grand copain qui a été finalement nommé à la tête de la NASA.
Oui, voilà. Alors, qui aujourd'hui essaye de montrer qu'il n'est plus si copain que ça. Enfin, c'est très compliqué. Alors, ça dépend des relations de Musk et de Trump. C'est des trucs triangulaires, etc. Mais effectivement, Jared Isaacman, c'est celui que Musk a fait monter le plus haut jamais. Voilà, on a fait une sortie extravéhiculaire. En si haute altitude. Donc tout ça s'organise. Je pense qu'il faut que nous, on ait, et ça rejoint un peu ce qui était dit, il faut qu'on ait une vision un peu stratégique, j'allais dire, de tout ça. Oui. Parce qu'effectivement, Musk, c'est aussi le gros moustique sur le pare-brise, si j'ose dire. Mais il y a derrière, en fait, tout un mécanisme qui est en place et qui est un mécanisme qui va avoir des effets sur les 30 prochaines années.
Alors, restons quand même dans l'espace avec vous, Xavier. Parce que, si je comprends bien, Elon Musk, qui veut conquérir Mars, ça, David nous l'a bien expliqué. Mais donc, il veut installer dans l'espace, en fait, des centres de données qui fabriqueraient de l'énergie.
Alors non, il veut carrément mettre dans l'espace les data centers qu'on a sur Terre.
D'accord.
Voilà. Et il se dit, voilà, dans l'espace, d'abord, il n'y a pas de réglementation. Mars, au passage, c'est pareil. Il veut faire une planète, et il le dit, qui ne sera pas réglementée par les lois terrestres. Hein. Il veut ses propres lois à lui. Donc il y a toujours cet aspect, évidemment, démiurgique, idéologique, un peu fou. Mais très, très fou, d'ailleurs. Mais alors, ce qu'il veut faire dans l'espace, non. Là, c'est vraiment, en fait, une capacité à bâtir dans l'espace une infrastructure qui connectera toutes les intelligences artificielles, enfin qui produira de la donnée, qui stockera de la donnée, etc. D'un point de vue technique, c'est fou.
C'est fou, c'est-à-dire théoriquement faisable ou pas?
Non, aujourd'hui, c'est pas faisable. On sait que il y a des problèmes de radiation dans l'espace, par exemple, et les puces. Alors Google travaille beaucoup, par exemple. Il faut savoir, Google travaille avec une autre petite société, une start-up spatiale qui s'appelle Planet, qui aujourd'hui a environ 200 satellites en orbite qui prennent des photos. Et Google travaille sur des puces qui vont résister aux radiations pendant 5 ans. Ça tombe bien, 5 ans, c'est le temps de vie d'un satellite. il y a beaucoup de boîtes qui travaillent là-dessus. Mais on sait que c'est très compliqué. Il y a aussi le fait qu'il va falloir refroidir tout ça. Un data center, c'est beaucoup de chaleur. Et dans l'espace, en fait, on se leurre. Hein. Parfois, on pense que l'espace, c'est très froid. Il n'y a pas de convection dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser des stades de foot, de radiateurs pour faire
qui serait,
évacuer.
Qui serait c'est aussi purement radiatif.
Qui serait sur le système, qui serait au-dessus de nos têtes. Donc, tout ça, c'est fou. Et puis, vous avez plein d'autres. Il faudrait. On sait qu'aujourd'hui, il faut en lancer tout ça en orbite. Alors, même si Musk promet d'avoir une très grosse fusée à très bas coût, on n'y est pas encore. Il y a tout un... Et puis, il faut maintenir tout ça. Si vous avez une panne, il faut y aller. Donc, tout ça, c'est techniquement fou. Mais effectivement, aujourd'hui, il a tout un discours là-dessus qu'il renforce avec l'IA, je dirais, dans son récit. Il a un récit combiné. Et ce récit combiné, il a pour but de séduire les investisseurs. Et sachant que d'autres sociétés comme Google, c'est quand même pas n'importe quoi, comme Anthropic, comme Amazon, Jeff Bezos lui-même, ils ont le même discours. Alors, le truc juste sur Jeff Bezos, qui est intéressant par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, Musk dit, bien, on a un plan A, il faut un plan B au cas où le plan A a un problème. Alors, Bezos, il avait un discours, et c'est en train d'évoluer, il avait un discours différent qui était de dire, non, il faut mettre toute l'industrie polluante dans l'espace, y compris les data centers, et il faut que la Terre redevienne un sanctuaire dans lequel nous pouvons habiter. Sauf qu'en ce moment, il est démiurgique d'une autre manière, sauf que là, il est en train d'évoluer et il commence à avoir ce discours aussi. Et on voit bien que Bezos, d'ailleurs, depuis le deuxième mandat de Trump, a évolué dans pas mal de ses compartiments intellectuels, on va dire.
Mais en attendant, ce sont quand même les lanceurs de Musk qui ont le quasi-monopole des lancements dans l'espace. Et notre astronaute, Sophie Audenau, va partir grâce à Elon Musk mercredi prochain. Je crois que la date est confirmée. Elle va s'envoler de Cap Canaveral.
Alors, il y a eu un petit problème sur le dernier tir de Falcon, donc il y avait quand même une petite...
Oui, mais je crois que la date vient d'être
confirmée. Je crois que ça a été confirmé, effectivement.
David Chavalarias... Donc, on a compris ce projet qui est à la fois extraordinairement terre-à-terre, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de lever le maximum de financement, et en même temps, pour aller ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut forger des outils pour échapper, en quelque sorte, à cette course-poursuite dans laquelle nous autres Européens, nous sommes quand même singulièrement... absent, sauf que nous sommes les consommateurs de tout cela.
Ah bah oui, enfin forger des outils. Déjà constater que le projet est complètement fou. On vient d'en discuter. Hein. Aussi prendre conscience que le contrat qui est entre Musk et le gouvernement américain, qui en gros, vous me laissez l'espace, Mars, et moi je vous aide à contrôler la Terre. C'est un contrat très concret. Vous avez parlé du dôme d'or de Trump. S'ils arrivent à faire un dôme d'or, donc qui est censé intercepter tout missile intercontinentaux, c'est la fin de la dissuasion nucléaire. Donc pour les États-Unis, ça veut dire une domination totale, si jamais s'ils arrivent. Donc ça veut dire qu'il y a une alliance hyper stratégique et qu'au nom de cette alliance-là, Elon Musk arrive à avoir en gros toutes les possibilités à l'extérieur. Donc après, nous, en tant qu'Europe, il faut à la fois avoir conscience de ça, aussi avoir conscience que Elon Musk, avec tout son imaginaire, nous vend des choses qui sont à la fois pas utiles et probablement infaisables, voire nuisibles pour la planète, et qu'on peut aussi récupérer notre propre agentivité technologique. Donc,
non, mais on constate toujours la même chose. On dit on a d'excellents mathématiciens, on a des scientifiques brillants, en France en particulier, mais aussi ailleurs en Europe. Mais dès qu'ils ont besoin d'argent, évidemment, ils vont... aux États-Unis.
C'est aussi en partie parce que, par exemple, si on prend le cas de la France, tout ce qui est ingénieur, recherche publique, etc., est assez mal traité, d'une certaine manière. Je veux dire, un ingénieur dans le public ou un chercheur dans le public, il gagne trois fois moins que son équivalent, ou deux fois moins qu'en Belgique ou en Suisse, et cinq fois moins que dans le privé. Donc il y a un sous-investissement aussi dans ces choses-là, mais ça serait une autre émission. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que l'Europe a quand même une certaine technologie, elle a de la matière grise, elle a des moyens, mais c'est juste qu'elle s'est vautrée dans le confort des services américains et en se faisant l'illusion que le marché de libre concurrence que proposaient les Américains était dans l'intérêt de tous, alors qu'en fait, c'était ils acceptaient ce marché-là dans la mesure où leurs entreprises dominaient. Et dès que leurs entreprises sont menacées, la libre concurrence n'existe plus. C'est les droits de douane, etc. Donc en fait, l'Europe a été naïve. Elle a cru qu'il y avait un espèce de super modèle pour l'innovation, alors qu'en fait, là, c'est pas du tout ça. C'est même le contraire par rapport aux États-Unis.
Joël Toledano, on en revient évidemment à la dimension économique de tout cela, mais c'est la même. Comment dire ? Nous sommes dans la même situation, une situation à la fois de dépendance et d'infériorité manifeste.
Oui, et donc si on en prend acte et qu'on se dit qu'il faut vraiment se donner les moyens et pas continuer à se plaindre, il y a toute une série de choses à faire. Pas seulement en matière de régulation du numérique, mais par exemple en matière de régulation financière, c'est-à-dire que pour faire ce que dit David, il faut, et ce que vous évoquez, c'est-à-dire il faut avoir plus de capitaux en Europe. Aujourd'hui, avec l'éclatement des marchés de capitaux, évidemment, ces capitaux vont plus volontiers, sont mieux rémunérés aux États-Unis. Donc, c'est un des chantiers qui est lancé. Mais
c'est
là
ce
encore,
que Mario Draghi a
oui,
encore
là encore, on se hâte très lentement.
La semaine dernière.
Oui, mais on se hâte très, très lentement. Oui. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de sujets d'urgence. La semaine dernière, il y avait un sondage du BCG sur à la fois les problèmes et les solutions, et parfois l'Europe apparaissait à la fois comme le problème et la solution. Donc évidemment qu'il faut faire bouger un certain nombre de lignes. Je crois qu'on en a les moyens, si tant est qu'on y aille, mais que...
Mais on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il faut intégrer davantage... En commençant d'ailleurs par les marchés financiers.
Oui, pour faire suite à ça et prendre un exemple assez concret de ce dilemme dans lequel on est. Technologiquement, on est tout à fait au niveau. Par exemple, sur ces constellations de satellites, il se trouve qu'en Europe est en préparation une constellation qui s'appelle IRIS², qui a été financée par la Commission, etc. Et qui va être au top techniquement. On va utiliser des techno-quantiques, etc. C'est au top. Alors, ce n'est pas Starlink, mais ça permet de sécuriser les communications entre gouvernements, etc. Le gros problème, c'est que quelque chose comme Starlink ou quelque chose comme tous les projets qu'on a évoqués, ils sont soutenus par de la commande publique. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a cette reconfiguration. En Europe, on va financer la construction d'IRIS², et les industriels sont très bons, mais derrière, il va falloir commander, il va falloir faire vivre cette constellation qui essentiellement va être une constellation pour des usages institutionnels. Et c'est là où ça pêche très vite, parce que très vite, un certain nombre de pays, par exemple, vont dire « Ah ben moi, je suis désolé, mais Starlink, ça coûte moins cher que... » Et puis finalement, mon besoin de confidentialité, il n'est peut-être pas tant... Et on a toujours ce problème. Dans le spatial, c'est récurrent. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc tout ça pour dire, au bout du compte, c'est aussi la stratégie. On lance des choses dans l'espace, pourquoi faire ? On a toute cette question à se poser en européen. C'est très compliqué, parce qu'on a 27 États qui sont alignés différemment, qui vont avoir des relations différentes avec les États-Unis, par exemple, etc. Et donc, on part toujours avec un... J'allais dire, sur le 100 mètres, on a 20 mètres de retard dans les starting blocks, quoi. En termes de conception de la raison pour laquelle on fait ça. On saurait faire du réutilisable, par exemple. Les lanceurs sont moins coûteux, dit-on, pour Musk, parce qu'ils réutilisent les étages.
Et personne n'y croyait.
Et personne n'y croyait au départ, et en particulier pas nous en Europe, on n'y croyait pas. Okay. Mais réutiliser des étages, ça veut dire que Musk a tiré 150 fois l'année dernière, plus que tous les autres acteurs du monde réunis. Mais quand vous tirez quelque chose, c'est pour envoyer quelque chose en orbite. Alors il envoie ses Starlink, et puis il envoie incidemment des satellites gouvernementaux. En Europe, pourquoi on tirerait 150 fois par an ? C'est cette question qu'il faut se poser. Et est-ce qu'on veut aller vers ça ? Est-ce que c'est le modèle qu'on souhaite avoir ? C'est-à-dire d'occuper l'espace avec ce type de concept ? Donc vous voyez que tout de suite, c'est très techno, a priori, l'espace, c'est un truc de geek. Mais en fait, tout de suite, c'est très politique. Et c'est très fondamental sur quel modèle de société, finalement, tout cela emporte avec lui. Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas. Et donc, on est toujours tracté. On est un peu tracté par ce rythme effréné que vous décriviez, Christine. On est vraiment dans cette difficulté-là.
Mais le problème, Nathalie Sonnac, c'est que la tentation, et surtout en France, c'est de se réfugier dans le verbe. Et donc, on a un discours admirable, avec finalement assez peu de variantes, sur la protection de nos valeurs, avec un V majuscule. Et évidemment, nous y souscrivons tous et nous y contribuons tous, y compris ce matin. Et je vous en remercie d'ailleurs, tous les quatre. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que il faut quand même être à même non seulement de continuer à comprendre ce que ces grands acteurs, qui sont tous américains, et côté chinois, c'est encore dans le brouillard. Mais ils ont aussi leurs projets, sinon dans l'espace, mais en tout cas sur Terre.
Bien sûr.
Et en particulier sur la manipulation génétique. Néanmoins, et donc c'est un tout dernier tour de table, très bref évidemment, et c'est une conclusion très provisoire à cette discussion. Quelle pourrait être, en deux mots, la meilleure mesure que nous autres Européens pourrions prendre ? Joël, je commence avec vous.
Quel cadeau !
Oui.
La meilleure mesure, c'est de se donner les outils pour mesurer les effets de nos politiques. Quand on parle de la régulation du numérique, on parle d'action et on ne mesure pas les impacts des décisions qu'on prend. Et donc, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. On a lancé des textes, mais on est incapable d'évaluer ce qui marche bien et ce qui marche moins bien, pour nous départager éventuellement aujourd'hui, parce que ça a déjà 2 ans et demi. Et on a ces belles idées qui semblent remplacer le fait de vérifier qu'on ne dit pas des bêtises. Et donc, moi, la première mesure, c'est créons un système d'information qui nous permette d'évaluer ce qui se passe effectivement sur Internet. David a fait beaucoup d'efforts dans ces sujets, mais il y a un... Voilà. Faisons la même chose sur la haine, surtout, pour être capable de se dire, ça c'est la bonne mesure, ça c'est la mauvaise mesure.
David.
Moi, je pense qu'il y a vraiment urgence à devenir indépendant de la tech américaine, hein, que ça soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l'espace, etc. Il y a des moyens de parce que tant qu'on n'est pas indépendant, en fait, on sera obligé de suivre les valeurs des Américains.
Mais est-ce qu'on a les moyens d'être indépendant ?
On a les moyens. Enfin, c'est-à-dire vous avez même des pays qui avant étaient considérés comme sous-développés, qui maintenant sont au top de la tech parce que ils se sont donné les moyens. Donc,
par exemple,
nous sommes pas. La Chine à un moment donné avait beaucoup de retard, et bon. Mais juste pour terminer, il faut se donner ces moyens-là de manière à pouvoir poursuivre nos propres valeurs. C'est-à-dire que là, ce que nous imposent Musk et les États-Unis, c'est en gros une espèce de fuite en avant, et Musk, il nous dit, il faut absolument conquérir l'univers. Est-ce qu'on a besoin de conquérir l'univers ou au contraire protéger la Terre? Donc si on veut être sur des valeurs plutôt de, par exemple, protection du vivant tel qu'il est actuellement, il faut être indépendant de cette chaîne qui nous enchaîne, en fait, aux valeurs américaines. Et c'est sortir de leur technologie.
Nathalie.
Oui, moi j'adore les belles idées. Moi j'adore le sens. Je pense que c'est absolument indispensable de savoir pourquoi on fait les choses. Alors Mars, la colonisation, c'est pas ce que l'on souhaite, c'est pas ce que l'on a voté, c'est pas ce pourquoi on a envie, nous, Européens, de construire. Alors c'est certainement, évidemment, beaucoup plus compliqué. Les États-Unis, la Chine, c'est un avec un parti communiste chinois. Les États-Unis, c'est un, on va dire, depuis Trump. Nous, non, l'Europe, évidemment, nous avons 27 pays, des langues, des histoires, des origines différentes. Et c'est beaucoup plus compliqué, certes, évidemment, à mettre en œuvre. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous manque terriblement. C'est le fait de nous imposer. Et pour nous imposer, c'est de croire en nous. Moi, je crois intrinsèquement en nos valeurs. Agissons et imposons-nous. Nous sommes un marché de plus de 500 millions d'habitants. L'Europe est riche et on ne le sait pas.
Xavier Pascaux, ça va être dur, là.
Ça va être dur, là, tout.
Relever le défi.
Ça a été dit, mais finalement.
Nathalie Sonnac.
Absolument. Moi, je suis frappé globalement par la méconnaissance en Europe des enjeux stratégiques qui sont attachés à tout ça, par le grand public. Je pense qu'une émission comme celle-ci, elle est vraiment précieuse parce que je pense qu'il y a, une vraie... On a dit, on consomme tout ça, on est des consommateurs un peu passifs, on voit les choses qui arrivent, on est toujours... c'est la vitrine de Noël, quoi, finalement, le dernier iPod, etc. Je pense qu'on a besoin de plus de présence, je dirais, d'explication, on va dire, de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça part peut-être déjà, peut-être dans l'enseignement. On a besoin de se connecter à ces réalités pour prendre la distance critique nécessaire. Notre problème aujourd'hui, c'est une difficulté à prendre la distance critique. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un boulevard dans lequel entre toute cette tech, etc. Donc je pense, il y a un aspect, moi je vais souligner l'aspect enseignement, on va dire, et réveil.
Et médias,
et médias,
et France Culture.
Et France Culture. Et donc, l'émission est précieuse.
Eh bien, merci, merci à vous quatre. Xavier, vous avez publié chez Talendier en septembre dernier un livre tout à fait passionnant sur la géopolitique de l'espace. La guerre du ciel est déclarée, donc voilà, on a mieux compris ça ce matin. David Chavalarias, en juin dernier, et c'est passionnant aussi, Elon Musk en 50 tweets aux éditions du Seuil. Joël Caledano, en 2020 chez Odile Jacob, GAFA, reprenons le pouvoir, avec un point d'exclamation. Nathalie Sonnac, vous avez publié aussi chez Odile Jacob, Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique. À la réalisation ce matin, je remercie bien sûr Luc-Jean Reynaud, à la technique Anthony Thomasson, Théa Corlaire et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Je recommande évidemment le podcast que vous trouvez sur la plateforme de Radio France, Le pouvoir selon Trump. Et dans un instant, nous sommes samedi, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.